Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Livre 3, chapitre 6. Les chevaliers de la Cuillée se liguent contre Genève au château de Bursinelle, mars 1528. Plainte de Bonivard sur Genève. Certains huguenots vont à Saint-Victor. Discours que leur adresse Bonivard. Défaut qui s'y trouve. Les huguenots mangent de la viande en carême. La réunion de Bursinelle. Pontvert et la Cuillée. La confrérie de la Cuillée se forme. Alarme dans Genève. Droit des princes et des sujets. Bonivard défend Cartigny. Les Savoyards prennent le château. Bonivard ne peut le reprendre. Progrès de l'Évangile dans Genève. Le duc et l'évêque se réconcilient. La ville ne voit plus dans l'évêque qu'un ennemi. De tous côtés, les partisans de l'absolutisme et de la papauté s'élevaient contre Genève comme si la Réformation y était déjà établie. Il n'en était rien cependant. Genève, sortie du catholicisme romain, n'était point entrée dans la Réforme. Il se trouvait dans ces terres vagues et stériles, ce pays des négations et des contestations qui s'étendent l'un à l'autre. Quelques-uns seulement commençaient à reconnaître que pour se séparer vraiment du pape, il fallait, comme Haller et Zwingli le disaient, obéir à Jésus-Christ. Bonivard, subtil examinateur, se livrait à ses réflexions dans son grand siège à dos au prieuré de Saint-Victor. Il étudiait curieusement le singulier aspect que Genève présentait alors. « Spectacle étrange, disait-il, chacun veut commander et nul ne veut obéir. De la tyrannie, nous sommes tombés en vice contraire, et pire qui est l'anarchie. Autant de tyrans que de têtes, ce qui engendre le règne de la confusion. Chacun veut faire de la chose publique son profit ou son plaisir particulier. Le profit tend à l'avarice, et le plaisir consiste à se venger de celui que l'on hait. On frappe, mais non pas les vrais ennemis de Genève. Blesser un ours, il ne sautera pas sur celui qui lui aura fait la plaie, mais il se vengera sur les premiers pieux ou sur le premier arbre qu'il rencontrera. Ainsi fait-on, hélas, parmi nous. Ayant gémi sous un gouvernement tyrannique, au lieu de l'amour de la liberté, nous avons l'amour du libertinage. Il faut être apprenti avant que d'être maître, et rompre plusieurs cordes avant de savoir jouer du luth. Les huguenots ont ôté le tyran, et n'ôtent pas la tyrannie. Ce n'est pas liberté que de faire tout ce que l'on veut, si l'on ne veut tout ce que l'on doit. Ô orgueil, tu perdras Genève. Orgueil a toujours pour suivante envie, et quand orgueil veut monter trop haut, cette vieille le happe par la queue, le tire en bas, le fait descendre, tomber et se rompre le col. Les ligues huguenotes ne suffisent pas. Pour que la papauté recule, il faut que l'évangile s'avance. Bonivard nous a conservé lui-même ses sages pensées. Il n'était pas seul à les avoir. Les affaires de l'Alliance en tiraient souvent des Bernois à Genève et, convaincu que la Réformation seule sauverait cette ville, il continuait l'œuvre de Abofen. Reçus au sein des familles, ils y parlaient contre les traditions humaines et exaltaient la Sainte Écriture. « Dieu nous parle du Rédempteur, disait-il, et nullement du carême. » Mais les fribourgeois, se jetant au milieu de ces conversations évangéliques, s'écriaient « Obéissez à l'Église. Si vous vous séparez de l'Église, nous romprons l'Alliance. » Les évêquins étaient avec Fribourg, les communières étaient avec Berne. Ces derniers se divisaient en trois catégories. Il y avait les hommes politiques, pour lesquels la religion n'était qu'un moyen d'obtenir la liberté, les hommes sérieux et paisibles, qui demandaient la vraie piété, Bonivard nomme parmi eux Boutelier, enfin les ennemis des prêtres, qui ne voyaient la Réformation que sous le point de vue négatif et le regardaient essentiellement comme une guerre aux superstitions romaines. Un jour, ces hommes, esprits sincères mais impatients, se dirent qu'on ne pouvait attendre plus longtemps et se rendirent à Saint-Victor pour inviter le prieur à se mettre à leur tête. Ils sonnèrent à la porte du monastère et le frère portier alla prévenir Bonivard qui ordonna de les faire entrer. « Nous voulons abattre toute cérémonie papale, » dirent-ils. « Nous voulons chasser tout ministre, dicelle, prêtre, moine, toute cette racaille papistique. Puis nous entendons appeler des ministres de l'Évangile qui introduiront parmi nous la vraie réformation chrétienne. » Le prieur sourit en entendant ce discours. « Messieurs, dit-il d'un ton sarcastique, Je trouve votre opinion très louable, et je reconnais que tous les ecclésiastiques, du nombre desquels je suis, ont grand besoin d'être réformés. Mais ne faut-il pas que ceux qui veulent réformer les autres se soient d'abord réformés eux-mêmes ? Si vous aimiez l'Évangile, comme vous le dites, vous vivriez selon l'Évangile. Mais si vous voulez nous réformer, nous, sans vous réformer, vous, il est évident que ce n'est pas l'amour pour l'Évangile qui vous pousse, mais la haine que vous avez contre nous. Et pourquoi nous haïssez-vous ? Ce n'est pas parce que nos mœurs sont au votre contraire, mais parce qu'elles leur sont semblables. Aristote dit dans son Éthique, continua le savant prieur, et l'expérience le confirme, que les animaux qui vivent d'une même viande s'entre-haïssent volontiers. Deux chevaux ne sont pas d'accord à la même mangeoire, ni deux chiens autour du même os. Il en est de même entre nous. Nous sommes impudiques, vous l'êtes aussi. Nous sommes ivrognes, vous l'êtes aussi. Nous sommes joueurs, blasphémateurs, vous l'êtes aussi. Pourquoi donc vous êtes-nous si contraires ? Nous ne vous empêchons pas de vous livrer à vos menus plaisirs. Faites de même pour les nôtres, de grâce. Vous voulez nous chasser, dites-vous, pour mettre en notre place des ministres luthériens. Messieurs, pensez bien ce que vous entendez faire. Vous ne les aurez pas à garder 2 ans que vous nous regretterez. Ces ministres vous permettront de contrevenir aux défenses du pape, mais ils vous interdiront de contrevenir à celles de Dieu. Il faudra, selon leur doctrine, que l'on ne joue pas, que l'on ne se livre pas à la débauche, et cela sous grief peine. Ah, combien cela vous fâchera ! C'est pourquoi, messieurs, faites de 2 choses l'une. Ou laissez-nous en notre premier état, ou si vous voulez nous réformer selon l'Évangile, réformez-vous d'abord vous-même. Le discours n'était pas en tout point aussi raisonnable qu'il en avait l'air. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin, et puisque ces enfants de Genève voulaient appeler des ministres de l'Évangile pour introduire la vraie réformation chrétienne, loin de les repousser, il fallait les encourager. Ces mondains pouvaient avoir au fond de leur cœur un vrai besoin de l'Évangile. Réprimandés par le prieur, ils se retirèrent. « Vraiment, disait Bonivard en les suivant des yeux, ils s'en vont la queue entre les jambes. Certes, je veux la réformation, mais je ne veux pas que ceux qui sont le plus propres à difformer qu'à réformer prétendent en être les commissaires. » De retour chez eux, ces huguenots se demandèrent s'ils se laisseraient arrêter par les ironies de Bonivard. Ils résolurent de suivre son précepte, de se réformer d'abord eux-mêmes. Mais ne sachant pas que la réforme consiste avant tout à rétablir la foi et la moralité dans le cœur, ils entreprirent simplement d'élaguer certaines superstitions. Les lettres épiscopales permettant de manger du laitage en carême, de la maison neuve et ses amis s'écrièrent « On nous permet du lait, pourquoi pas de la viande ?» Puis répétant la leçon que leur avaient faite les Bernois, « La Sainte Écriture ne dit-elle pas manger de tout ce qui se vend au marché ?» Ils se mirent donc à manger de la viande tous les jours. Le conseil le vit avec inquiétude et défendit les nouvelles pratiques sous peine de 3 jours de prison au pain et à l'eau et de 5 sous d'amende. Mais voulant tenir la balance égale, à peine avait-il frappé d'un côté qu'il frappa de l'autre et condamna les 44 mamelouks fugitifs à la confiscation et à la mort. Cette dernière sentence remplit de colère toutes les contrées environnantes. Le sire de Pontvert surtout crut que le moment était venu de tirer l'épée. Aussitôt des messagers parcoururent tout le pays qui s'étend entre les Alpes et le Jura. Ils gravissaient péniblement les chemins rocailleux qui conduisaient au château escarpé. Ils traversaient le lac. Partout, ils convoquaient les gentilshommes, amis des mamelouks. Les seigneurs ne se firent point prier, se couvrirent de leurs armes, montèrent leurs coursiers, quittèrent leur demeure et se dirigèrent vers le lieu assigné pour rendez-vous, le château de Bursinel, près de Rolles, sur le riche coteau qui, partant du Jura, borde le lac en face du Mont-Blanc. Ces rudes gentilshommes arrivaient de Lavaux, du pays de Gex, du Chablais, du Genevois, du Faucigny. Ils sautaient l'un après l'autre de leurs montures, traversaient la cour et les salles en les faisant retentir du bruit de leurs armes, puis, se serrant la main, ils s'asseyaient à une grande table où ils se mettaient à banqueter. L'audace des Genevois était le sujet principal de leur conversation et Dieu sait comme ceux de Genève étaient déchiquetés, dit un contemporain. Parmi ces seigneurs, le sire de Pontvert était le plus rempli de haine contre Genève. D'une taille athlétique, d'une force herculéenne, d'un caractère violent, hardi, énergique, d'une supériorité prononcée, il fut reconnu comme leur chef par les gentilshommes du château de Bursinel. Si ces gentilshommes méprisaient les bourgeois, ceci le leur rendait bien. « Il y a à Bursinel, disait quelques Genevois, une assemblée de bandits, de brigands. » Mais il ne faut pas cependant prendre trop à la lettre ces dénominations un peu rudes. Les déprédations de ces gentilshommes attaquaient sans doute l'organisation sociale et il était temps d'en finir avec ces mœurs du Moyen-Âge. Pourtant, plusieurs d'entre eux étaient bons fils, bons époux, bons pères et même bons seigneurs. Mais ils étaient impitoyables contre Genève. Ils se disaient l'un à l'autre, dans leurs propos de table, que les princes étaient bien parvenus en France et ailleurs à détruire les franchises des villes municipales et que cette ville libre, la dernière qui subsista, méritait un sort semblable, plus encore que les autres, puisqu'elle commençait à joindre un vice nouveau à ces vices anciens qu'elle écoutait Luther. Il faut, ajoutait-il, qu'une lutte décide à qui, de la chevalerie ou de la bourgeoisie, de l'Église ou de l'hérésie, appartiendront les temps futurs. Genève abattue, il se croyait maître de l'avenir. On a comparé Pontvert au célèbre Romain qui redoutait tant les Carthaginois, parce qu'il ne cessait de répéter comme lui dans toutes les réunions des nobles « Delenda Carthago ». On était à la fin du repas. Les serviteurs du seigneur de Bursinelle avaient été chercher dans les caves du château le meilleur vin de la côte. Les libations étaient nombreuses et les chevaliers avaient trop bu. Si advint, dit Bonivard, qu'on leur apporta du riz ou papé et des cuillers autant qu'il y avait de personnes à table. Pontvert se lève, de cette main qui maniait si vigoureusement l'épée, il prend sa cuillère, la plonge dans le plat de riz et la portant à sa bouche, il mange et s'écrie « Ainsi j'avalerai Genève et les Genevois ». Aussitôt, tous les gentilshommes, échauffés de colère et de vin, prennent de même leur cuillère, mangent et s'écrient qu'ils ne feront qu'une bouchée de tous les huguenots. Pontvert n'en reste pas là. Il prend une petite chaîne, suspend la cuillère à son cou et s'écrie « Je suis gentilhomme de la cuillère et en voici la marque ». « Nous sommes tous de cette confrérie, » disent les autres, et ils suspendent d'eux-mêmes leur cuillère sur leur poitrine, puis ils se donnent la main, se jurent fidélité et enfin se séparent, remontent en selle, retournent dans leur manoir, et quand leurs voisins regardent d'un œil étonné ce qui leur pend au cou et leur demandent ce que cette cuillère signifie, « Nous voulons nous en servir pour manger les Genevois, » répondent-ils, « Ne voulez-vous pas être des nôtres ?» Ainsi se forma la confrérie qui se proposait pour but la conquête de Genève. Partout on arbora la cuillère, comme au temps des croisades on avait arboré la croix. Ce signe était caractéristique de ces chevaliers hableurs et bons vivants. Il se faisait chaque semaine des réunions dans les divers châteaux du voisinage. De nouveaux gentilshommes survenaient, se suspendaient la cuillère au cou en disant « Puisque les non-nobles s'allient, les Genevois et les Suisses, les nobles le peuvent bien faire ». Ils établissaient statuts et lois entre eux, couchés par écrit en forme de choses publiques. Bientôt les gentilshommes de la cuillère, ce fut le nom qu'ils prirent, s'appliquent à remplir fidèlement leurs vœux. Ils s'élancent de leur château, ils pillent les propriétés des Genevois, ils leur coupent les vivres et les serrent de plus près de jour en jour. Quand ils arrivent jusque près de la ville, sur les hauteurs de Prégny, de Lancy, de Cologny, ils joignent la dérision à la violence, ils prennent leur cuillère à la main et la brandissent dans les airs comme s'ils voulaient s'en servir pour avaler la ville qui s'étend riante à leurs pieds. L'alarme dans Genève grandissait de jour en jour. Les citoyens appelaient les Suisses à leur aide, fortifiaient la ville et faisaient bon guet. Dans toutes les réunions d'amis, on se racontait le fameux repas de Bursinelle. Les Genevois en vinrent, dit une chronique, jusqu'à ne vouloir plus se servir de l'innocente cuillère, tellement ils l'avaient prise en horreur. Plusieurs de ceux qui lisaient l'Évangile se mirent à demander à Dieu de sauver Genève. Et le 23 mars, les membres du Conseil firent coucher sur les registres ces mots que nous copions. « Puissions-nous être délivrés des maux que nous endurons, vaincre et avoir la paix, que le Tout-Puissant veuille nous le donner. » Pontvert n'était pas un coureur d'aventure. Il avait un esprit capable de discerner les besoins de la politique et de son parti. Deux hommes dans Genève préoccupaient surtout alors ses pensées, l'évêque et le prieur. Il fallait, selon lui, rallier l'un et châtier l'autre. Il commença par Bonivard. Personne n'était plus détesté que lui dans le parti féodal. Que le chef d'un monastère se rangeât avec les huguenots semblait un affreux scandale. Nul d'ailleurs à cette époque ne proclamait plus haut que le prieur les principes opposés au pouvoir absolu. Il le montra bientôt. À Cartigny, sur la rive gauche, à deux lieues de Genève, il y avait un fief qui relevait des ducs de Savoie. C'était un chastel de plaisance, disait-il, et non une forteresse. Toutefois, il avait coutume d'y tenir garnison. Le duc s'en était emparé pendant la captivité de son vassal et avait répondu aux fréquentes réclamations de Bonivard qu'il n'osait le lui rendre de peur d'être excommunié par le pape. La Saint-Michel étant venue, temps auquel on recouvrait les revenus, le gouvernement savoyard s'opposa à ce que les tenanciers payassent leur rente au prieur. Celui-ci en fut indigné, et les principes qu'il établit alors méritent d'être rappelés. Les droits du prince et du sujet sont réciproques, dit-il. Si le sujet doit obéissance au prince doit justice au sujet. Si le prince peut contraindre le sujet quand il lui refuse obéissance, dans des cas où elle lui est légitimement due, le sujet a aussi le droit de refuser obéissance au prince quand celui-ci lui refuse justice. Que le sujet soit alors sans crainte et se tienne sûr qu'il a Dieu pour lui. Les hommes peut-être ne seront pas de son côté, mais s'il a la force de résister aux hommes, moi je l'assure de Dieu. Bonivard, décidé à obtenir justice, présenta au Conseil de Genève les lettres impétrées qui établissaient ses droits et demanda d'être soutenu à forme d'icelle. Cette demande trouva d'abord une certaine opposition dans le Conseil général. La ville, disait-on, avait déjà bien assez de ses propres affaires sans se charger encore de celles du prieur. Mais plusieurs huguenots soutinrent l'avis contraire. Si le duc a dans Saint-Victor un seigneur à sa guise, disait-il, il en pourra survenir pour nous de graves inconvénients. D'ailleurs, l'énergique prieur a toujours été ferme au service de la ville. Cette considération l'emporta et le Conseil général décida qu'on maintiendrait le droit de Bonivard à main armée s'il le fallait. Alors celui-ci fit ses préparatifs. « Puisque je ne puis avoir justice civile, dit-il, je recourrai au droit des gens qui est de repousser la force par la force. » Le petit souverain de Saint-Victor, qui comptait 10 moines pour sujet, qui ne possédait plus les couleuvrines de son oncle et qui n'avait pour faire la guerre d'autres ressources que quelques arquebusiers que lui engageait un aventurier bernois, plus 4 livres de poudre, se décida à marcher contre le puissant duc de Savoie, prince de Piémont, qui, jadis, n'avait qu'à froncer les sourcils pour faire trembler l'univers. Périsse Saint-Victor plutôt que les principes. Bonivard fit venir un héraut et lui dit « Le duc de Savoie a usurpé ma souveraineté. Tu iras donc à Cartigny et tu y feras des cris par toute ma terre en ces termes. Que nul n'ose en Icelle exécuter ni lettre papale ni lettre ducale sous peine d'être pendu. » On voit que Bonivard usait largement de son pouvoir suprême. Le héraut, dûment accompagné, fit autour du castel cette terrible publication. Puis un capitaine, un commissaire et quelques soldats envoyés par Bonivard prirent en son nom possession de son domaine à la barbe du pape et du duc. Il était tout glorieux de cet exploit. Le pape et le duc n'ont osé mander des gens pour empêcher mon capitaine de faire son recouvre, dit-il dans sa bonhomie, car quoique pétillant d'esprit, Bonivard était aussi bonhomme. La crainte qu'il attribuait au duc ne fut pas de longue durée. Les terres de Cartigny étaient proches de celles de Pontvert, et à peine la confrérie de la Cuillée était-elle formée, qu'une expédition dirigée contre le castel fut le prélude des hostilités. Un prévôt ducal et des hommes d'armes se présentèrent le 6 mars 1528 devant le château. En vain, Bonivard avait-il commandé à son capitaine de se défendre, le castel fut pris. Le prieur, indigné, s'écria « Mes gens se sont laissés surprendre ». Il crut, ainsi que tous les Genevois, que le duc avait gagné le commandant. Le capitaine de Cartigny, après avoir mangé la figue, a vendu le cabas, disait-on dans les réunions de huguenots, c'est-à-dire après avoir profité des revenus du domaine, il avait trafiqué du capital du château lui-même. Le prieur de Saint-Victor, décidé à reprendre sa possession sur les troupes de son Altesse, s'entendit avec un ancien conseiller bernois nommé Bouchelbach, homme d'un caractère assez peu recommandable, qui lui avait probablement procuré les quelques soldats de sa première expédition et qui, cette fois, faisant de plus grands efforts, lui recruta un corps d'armée de 20 hommes. Bonivard se mit lui-même à la tête de la troupe, la fit marcher en ordonnance, lui commanda de tenir le feu sur les arquebuses et fit halte en vue du château. Bonivard, qui parlait très bien, se fia encore plus à sa langue qu'à ses armes. Il voulait donc d'abord exposer ses droits. En conséquence, l'ancien conseiller bernois, accompagné de son serviteur nommé Thiébault, s'avança et demanda de la part du prieur à parlementer. Pour toute réponse, la garnison fit feu et Thiébault tomba mort. Le soir, tout Genève était agité. Les citoyens émus, exaspérés, couraient en armes par les rues et ne parlaient que d'aller à Cartigny venger la mort de Thiébault. « Calmez-vous, dit le Bernois, je ferai tel rapport à messieurs de Berne que monsieur de Savoie, qui est cause de tout ce mal, emportera la pâte au four. Les syndics n'avaient pas promis d'attaquer la Savoie, c'eût été une grosse affaire, mais seulement de défendre Bonivard. Pour dégager leurs promesses, ils établirent des corps de garde sur les autres terres de Saint-Victor, avec ordre de les garantir de toute attaque. Cartigny fut perdu pour le prieur, mais il était prêt à endurer bien d'autres sacrifices. Il avait sans doute des défauts, et en particulier, il se liait trop facilement avec des hommes peu estimables, Bouchelbach par exemple. Mais il y avait en lui de nobles aspirations. Il savait qu'en continuant à suivre la même ligne de conduite, il perdrait son prieuré. Il serait jeté en prison, peut-être mis à mort. Mais qu'importe, pensait-il, si à tel prix le droit est maintenu et la liberté triomphe. Le sire de Pontvert s'occupait d'un projet plus important que la ruine de Bonivard. Il voulait, nous l'avons dit, rallier l'évêque. Doué d'un grand sens politique, voyant mieux et plus loin que le duc et le prélat, il comprenait que si la guerre aux nouvelles idées devait réussir, il fallait que tous les anciens pouvoirs se coalisassent contre elle. Rien de plus déplorable à ses yeux que la division survenue entre Charles III et Pierre de la Baume. Il entreprit donc de les réconcilier. Il leur fit comprendre qu'ils avaient des ennemis communs, que leur union seule les mettrait à même d'écraser les Huguenots. Il effraya l'évêque en lui insinuant que la Réformation allait non seulement abolir le catholicisme, mais encore lui enlever à lui ses revenus et ses dignités. Il lui insinua même que l'hérésie s'était déjà glissée à son insu dans sa propre maison et avait atteint son premier valet de chambre, Guillaume de la Mouille, qui jouissait de toute sa confiance. L'évêque, voulant profiter aussitôt des avis de Pontvert, se hâta d'écrire à de la Mouille. « Je ne veux souffrir aucune occasion d'engendrer dans mon diocèse quelques mauvaises et maudites sectes qui déjà règnent comme j'entends. Vous avez été assez lent en m'en avertir, dites-leur hardiment que je ne les endurerai point. » Cependant, la grande et difficile affaire pour le prélat était de se réconcilier avec le duc. Plein de confiance dans ses talents pour l'intrigue, il crut que sans se brouiller tout à fait avec Hugues et les Genevois, il pourrait se rétablir en bon rapport avec son Altesse. « C'est un cocher à tout vent !» s'écria Bonivard. « Il veut chevaucher l'un et puis mener l'autre par la bride. » L'évêque commença ses manœuvres. « Si j'ai quitté Genève, fit-il dire au duc, c'est pour n'être pas obligé d'y faire quelque chose qui vous déplaise. » Il s'était au contraire sauvé, on se le rappelle, pour échapper à Charles III qui voulait le happer. Mais ce prince, content de voir la Baume se remettre sous sa direction, fit semblant de le croire et lui donna main levée de ses revenus. Étant ainsi réconcilié, l'évêque et le duc se mirent à travailler ensemble à étouffer la Réformation. « Bien, dit Bonivard, Pilate et Hérode deviennent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » L'évêque s'aperçut bientôt qu'il ne pouvait être à la fois avec le duc et avec Genève, et, se jetant toujours plus dans les bras de la Savoie, il se tourna contre ses sujets et ses ouailles. Aussi, l'un des hommes d'État les plus éclairés qu'ait possédé la République de Genève, disait-il au XVIIe siècle à un seigneur de la Grande-Bretagne qui lui adressait des questions sur l'histoire de Genève, « Dès ce temps, l'évêque devint fort odieux à la ville, qui ne pouvait plus le considérer que comme un ennemi déclaré. Ce fut l'évêque qui déchira le contrat qui avait subsisté entre Genève et lui. »